Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour le 10h midi et on va parler cartoons, Bugs Bunny, Sylvestre et Gros Minet plutôt, c'est Sylvestre et Titi avec Philippe Dana au pays des Toons. J'imagine que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre vous et puis on sera ensemble avec vous évidemment pour les débats à 11h moins le quart. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Ça, c'était du générique. Bonjour Gilles.
Bonjour Valérie.
Et surtout, bonjour Philippe Dana.
Bonjour Gilles, bonjour Valérie.
Ça bonjour vous fait Philippe. Du bien d'entendre, ça vous fait quoi quand vous entendez ce générique?
Je le connais assez bien, remarquez, donc ça me rappelle quelques souvenirs et c'est vrai que je l'ai beaucoup écouté pendant que j'écrivais mon récit, donc j'y suis très habitué.
Alors, on vous reçoit pour ce livre « Au pays des Toons », l'enquête rigoureusement farfelue et parfaitement subjective, mais tout à fait passionnante, qui vient de paraître chez Kero. Je ne sais pas si on peut voir, non, avec le truc, on ne voit pas bien la couverture. En tout cas, c'est le cadeau de Noël.
Je peux vous la montrer, je l'ai aussi.
Hein. Allez-y, vous serez moins, parce que moi, je suis en fond virtuel, donc c'est plus compliqué. Donc, on est ravis de vous recevoir pour parler des Toons, pour parler de tous ces personnages qui ont marqué notre enfance. J'ai appris d'ailleurs dans ce livre que Bugs Bunny s'apprêtait à fêter ses 80 ans. Hein, et c'est cet anniversaire que vous organisez d'ailleurs dans ce livre. Moi, j'ai pris un plaisir fou à le lire. Alors Gilles, la question du jour.
Je pense qu'il y aura des cadeaux explosifs si c'est Bugs Bunny ou des carottes dynamite. Alors on a voulu se demander si comme nous vous étiez nostalgique des cartoons parce qu'on les voit plus vraiment les télés Daffy Duck, Bugs Bunny, Titi et Gros Minet. Ils ont un peu disparu face aux dessins animés américains ou japonais. Et donc est-ce que vous êtes nostalgique de ces cartoons à la télévision? Bien Valérie, une majorité de nos auditeurs sont nostalgiques, oui à 79%, non à 21%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio, mais voilà un score qui doit faire plaisir à Philippe Dana.
Ben oui, on les voit plus trop, hein, nos Bugs Bunny, Daffy Duck et autres Toons.
Alors, c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut les voir, je pense qu'ils sont diffusés, mais en tout cas, ils ne sont pas mis en perspective comme on les mettait, nous, en perspective le dimanche soir, chaque dimanche soir à 19h30 sur Canal. Ouais. Et par ailleurs, il y a quand même des épisodes qui ont été recréés tout récemment, au mois de mars, ils sont diffusés sur HBO Max, qui est la plateforme de la Warner qu'on n'a pas encore en France, mais qui cartonne déjà aux États-Unis. Et c'est intéressant de voir que finalement, ces personnages qui ont pour certains 80 ans, vous l'avez rappelé Gilles pour Bugs Bunny, mais 90 ans pour Betty Boop, pour Mickey, donc ce sont des personnages qui sont âgés et qui pourtant séduisent toujours les jeunes spectateurs. Parce que Warner, quand il a relancé la série pour HBO Max, a fait des études auprès des jeunes Américains d'aujourd'hui. Et les personnages sont toujours très populaires. Ils ont réussi à être pérennisés jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Vous les regardez encore, vous? Vous essayez, vous êtes toujours fan de ces Toons?
Ah ben déjà pour écrire mon récit, ce récit je l'ai écrit pendant quatre mois. J'étais bloqué au Maroc à Tanger par la fermeture des frontières. J'étais tout seul et j'avais vraiment que ça à faire beaucoup de recherches et à visionner. Alors ça pour le coup, ce sont des dessins animés que vous pouvez très facilement visionner sur Internet. Il suffit de taper le titre et les vidéos existent sur des plateformes de vidéos à la demande. Est-ce que je suis nostalgique de ces films? Je suis très intéressé par ces films parce qu'ils sont toujours aussi modernes.
C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est ça qui est assez...
Ils sont d'une modernité absolue.
Ouais, absolument. C'est ça qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, à Tanger, vous avez eu la chance de rencontrer Popeye. Mais ça, on va en reparler dans un tout petit instant. On va passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Gilles qui regarde la télé pour nous. Alors Gilles, que s'est-il passé hier à la télé?
Que s'est-il passé hier, ce moment étonnant et fort, évidemment, lors de la rencontre entre le PSG et les Turcs de Ben voilà, je savais. Voilà, je savais. Je me suis entraîné avec le réalisateur. Je me suis entraîné tout à l'heure. Et bien voilà, de Bazakchir, qui a été interrompu à la 13e minute. En effet, le quatrième arbitre a désigné un joueur en disant le noir là-bas sur le terrain. Les joueurs ont immédiatement interrompu le match.
Il y a un adjoint d'Okanmuru qui estime qu'il a été insulté par le quatrième arbitre avec le terme de négro. C'est ce qu'on entend,
oui.
Mohamed.
C'est ça, oui. L'un des agents du staff de Bazakchir qui dit que le quatrième arbitre lui a dit négro.
Ouais, pourquoi il dit négro, lui, le quatrième arbitre ? Ouais, c'est négro.
C'est négro, hein.
J'imagine, voilà, que vous allez revenir à 11h dans vos,
oui,
débats.
Oui, on va en
sur
reparler.
Cet incident.
Absolument.
Gloire Valérie à notre patron, gloire à Patrick Roger, gloire à Sud Radio, gloire à Ségolène Royal, dont la sortie sur la place Beauvau hier dans la matinale a été alors reprise par toutes les chaînes, dont Hier Quotidien, qui pense que Ségolène Royal n'était pas forcément elle-même.
Ah non, je vous assure, c'était pas Ségolène Royal.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
C'était la caricature de Ségolène Royal. Vous savez, celle qui est populiste.
On est gouverné quand même par, oui, des gens qui, oui, qui sont une élite qui est complètement déconnectée du peuple. Dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent que c'est qu'un veau, oui, un veau, oui, qui est beau. Oui. Oui, oui. Le Beauvau, effectivement, c'est l'adresse du ministère.
Bon, en tout cas,
Non, c'était pas elle.
Voilà, un veau, non, beau, un beau veau. Si, si, c'était elle. Si, si, c'était elle. Et d'ailleurs, ce matin, plusieurs humoristes s'en sont emparés. On continue.
Eux, ils connaissent bien la place Beauvau, mais ils ne vont pas y aller. Hier, à la réunion, évidemment, de la place Beauvau, eux, ce sont les policiers d'Alliance Police. Son représentant a expliqué pourquoi dans cet avou sur France 5. Écoutez bien ses propos, Valérie.
On n'y participera pas tant qu'on n'aura pas des garanties sur ce qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire d'abord les condamnations fermes pour tous ceux qui agressent, attaquent des policiers, parce que ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Je rappellerai que samedi, il y a eu, sur 29 gardés à vue, 12 rappels à la loi. On se demande vraiment qu'est-ce que vient faire le rappel à la loi dans des actes violents au sein des manifestations. Parce que quand, par exemple, on jette un pavé à la tête d'un policier, c'est de 3 à 5 ans en fonction des blessures qui sont commises. Quand on a un rappel à la loi, voyez le décalage.
Et oui, décalage entre le rappel à la loi et les condamnations effectives. Une héroïne, Valérie, une héroïne, pas de dessin animé, mais une héroïne, celle qui a été la première au front, celle qui a démarré la vaccination en Angleterre. Vous savez qu'on peut désormais se faire vacciner de la Covid en Angleterre, évidemment, sous les caméras du monde entier.
Une arrivée sous l'œil des caméras et quelques questions d'usage. Puis, Margaret, 90 ans, passe à la postérité en recevant le premier vaccin contre le Covid-19.
C'est pour une bonne cause. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Allez-y, allez-y, c'est gratuit. C'est la meilleure chose à faire pour le moment. S'il vous plaît, allez-y, c'est tout ce que je peux dire. Si je peux le faire, alors vous aussi.
Moi, je suis admiratif de ceux qui y vont en premier avant tout le monde.
Et vous avez entendu le nom du second, du,
oui,
deuxième,
Shakespeare, William Shakespeare.
William Shakespeare, voilà. William Shakespeare s'appelait le monsieur.
L'humour à l'anglaise.
Qui s'est fait. C'est pas de l'humour, il s'appelait William Shakespeare.
Oui.
Allez, on conclut, on avance.
On conclut avec Philippe. Ça, c'est pour vous, Philippe, les années 80. Je pense que ça vous parle, HIP. C'était l'arrivée du breakdance, les années 80, ouais, en France. Eh bien, vous savez qu'en 2024, la breakdance va arriver aux Jeux Olympiques, qui auront lieu en France. La breakdance va être discipline olympique. Enfin, Valérie, un sport dans lequel vous allez pouvoir briller. Et oui, madame, un prétexte pour ouvrir la boîte à souvenirs. Alors là aussi, c'est pour vous, Philippe, que j'ai choisi ce son. Car ce reportage qui était diffusé sur TF1 sur la découverte de la breakdance en France a été réalisé par un certain Michel Denisot. Écoutez la voix.
Le hip-hop arrive de New York, mouvement né dans la rue autour d'un très très gros transistor. Il débarque en France, dans le métro, sur les parkings, le hip-hop est partout.
Bonjour les frères et sœurs, c'est nous, les PCB, on débarque de New York City, on a toutes les nouveautés, Mad USA.
Voilà, et on a fini évidemment avec le fameux Sydney. Et puis pour rendre à César ce qu'il y a à César, cet extrait a été passé hier dans l'émission de C'est à vous.
Voilà, merci, merci Gilles. Le breakdance, un avis Philippe Dana, breakdance discipline olympique.
Si on peut le pratiquer en duo, on pourra y aller avec Gilles.
Oui,
oui, absolument.
Moi, je pensais que vous alliez me le proposer, Philippe, donc je suis, un peu déçu.
Toutes les combinaisons sont possibles, Valérie.
Voilà, on pourra l'imaginer. Au pays
Valérie,
des
pour rester, ouais. Valérie, pour ouais. rester dans les années 80, je vous propose de démarrer l'interview avec le générique de sa cartoon. On vous ouvrons avec ce fameux générique des années 80.
Bonjour, c'est Sa Cartoon et je sais bien que vous ne me l'avez pas demandé, mais voici tout de suite les têtes d'affiche de Sa Cartoon cette semaine. Il y aura Woody Woodpecker, le Pivert, il y aura Speedy Gonzalez, et il y aura des duos, Tom et Jerry, et pour les fans, Bip Bip et le Coyote.
Et voilà. Et voilà, c'était Sa Cartoon. Ça a été, ça a duré combien, 22 ans, c'est ça, Philippe?
22 ans, oui. Ma voix a mûri depuis, vous avez vu.
Oui, vous avez une voix très, très jeune. Là, vous avez une voix un petit peu plus grave. 22 ans de Sa Cartoon, c'est dire si ça a accompagné un certain nombre d'entre nous, de jeunes et de moins jeunes. C'est à la fois cette aventure que vous racontez dans ce livre, ça va cartooner, parce que Il y a une trame qui est donc l'anniversaire de Bugs Bunny que vous êtes chargé d'organiser, donc d'aller retrouver ses amis. Mais c'est aussi une comment déjà, je vais pas trouver le mot, une percée dans le monde d'Hollywood, du Hollywood de ces années-là. Et c'est absolument passionnant. Ça, c'est un travail d'enquête que vous avez fait justement et que vous ignoriez ou vous connaissiez déjà tout de ces Toons?
Alors, j'ai voulu faire un récit qui soit à la fois joyeux et cinéphile. Donc, la partie joyeuse, c'est effectivement de partir à la rencontre des personnages et de les rassembler pour l'anniversaire de Bugs Bunny. Et la partie cinéphile, c'est de plonger dans l'univers qui est l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 20, 30, 40, 50, et de raconter qui étaient les personnages derrière les héros de dessins animés. Et parmi ces personnages, il y en a qui sont extrêmement connus comme Walt Disney, très respectés, très appréciés par les cinéphiles comme Tex Avery, et puis d'autres qu'on connaît un peu moins.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait, en effet, beaucoup de recherches. J'ai lu énormément de documents anglo-saxons pendant le confinement pour me plonger vraiment dans une époque qui est... Moi, j'adore tout ce qui concerne les récits hollywoodiens. Dès qu'il y a un documentaire sur Hollywood, je regarde. Là, je viens d'acheter, sur les conseils d'un copain, le livre de Michel Lebris qui s'appelle Kong et qui raconte l'épopée du film King Kong. Donc, tous ces sujets hollywoodiens me passionnent, mais je voulais... que les très nombreux spectateurs qui ont grandi avec Sa Cartoon, on avait 1 million à 1,5 million de spectateurs chaque semaine, donc c'était plutôt sympa, je voulais justement leur raconter dans quelle perspective, dans quel univers se situent les personnages. Et je voulais en même temps que le récit soit pas seulement technique, mais qu'il soit plutôt rigolo et joyeux.
C'est très très joyeux et très très rigolo parce qu'il y a cette poursuite que vous faites de chacun de ces personnages que vous rencontrez et où par exemple Popeye à Tanger vous explique on comprend d'où vient son personnage. En fait, son créateur s'est inspiré de gens qu'il connaissait et lui, en fait, Popeye, c'était un boxeur qui existait.
Absolument, il habitait une petite ville aux États-Unis et c'est le Edward Segar, le créateur de Popeye, qui est au départ un héros de BD, hein, de bande dessinée. Il était dans les strips du dimanche des quotidiens américains. Popeye a cette popularité de presse écrite et Max Fleischer, donc le producteur des dessins animés, fait le premier gros deal hollywoodien puisqu'il signe avec William Randolph Hearst. Alors, Randolph Hearst, on le voit en ce moment sur Netflix, c'est un des personnages de Mank, la fiction de David Fincher.
Il faut absolument voir.
Et le deal entre Hearst et Fleischer débouche sur la production des cartoons de Popeye. Popeye qui a, je dirais, deux caractéristiques immédiates. La première, c'est qu'avec lui, les ventes d'épinards augmentent de 30% tout de suite. Et la seconde caractéristique, c'est qu'à la fin des années 30, Popeye est plus populaire encore que la star la plus populaire du moment de dessin animé, qu'est Mickey Mouse.
Ouais. Alors au départ, ces dessins animés étaient diffusés avant le grand film, quand on allait au cinéma. Ce n'est pas du tout la télévision qui a popularisé les dessins animés, c'est-à-dire que c'était considéré presque comme du long métrage. Est-ce qu'à l'époque, on en fabriquait beaucoup? Parce qu'il faut se rappeler aussi que c'était dessiné à la main et plus pas par ordinateur comme maintenant. Et donc c'était aussi un artisanat assez incroyable, la fabrication de ces dessins animés.
Alors, ce que vous dites, Gilles, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, les dessins animés étaient faits pour le cinéma avec des moyens considérables alloués à la production de ces films qui étaient faits avec 24 images par seconde. Par la suite, quand la télévision est arrivée et que les producteurs ont produit pour la télé, Hanna et Barbera, par exemple, qui avaient fait les Tom et Jerry à 24 images par seconde, sont passés à 8 images par seconde, c'est-à-dire à une économie tout à fait différente, adaptée à la télé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a montré Eddie Mitchell dans la dernière séance, la séance de cinéma à l'époque, c'était les publicités, les actualités, les dessins animés et le grand film. Et les cartoons s'intégraient dans cet univers-là. Quand la télévision est apparue dans les années 50, la production de dessins animés pour le cinéma s'est arrêtée presque complètement et rapidement parce que la télévision est devenue le fossoyeur. C'est comme la chanson, vous la connaissez, la chanson des Buggles, « Video killed the radio stars ». D'une certaine façon, la télé a tué ces petites stars de ciné qu'étaient les stars de cartoons. Mais paradoxalement, elle a été aussi l'artisan de leur renouveau, puisque aujourd'hui, je vous parlais d'HBO Max tout à l'heure, aujourd'hui, c'est grâce à la télévision qu'ils ont gardé la popularité tout au long de ces années, jusqu'à 80-90 ans, alors que les stars de cinéma de l'époque, très peu sont encore connues et appréciées aujourd'hui.
Comment vous expliquez cette, pas longévité, mais le fait qu'ils soient indémodables ? C'est-à-dire qu'il y a une modernité quand on retombe sur un Tom et Jerry ou un Coyote ou sur tous ces dessins animés, on n'a pas l'impression que ça a été créé. Il y a Bugs Bunny, 80 ans, c'est dingue.
Oui, alors on peut l'expliquer peut-être de cette façon. C'est-à-dire que la plupart des dessins animés que vous venez d'évoquer, les studios Warner, les studios de la MGM, Tom et Jerry, les films de Tex Avery, se sont faits en opposition, d'une certaine façon, à la matrice qu'a été Walt Disney. Et en étant en opposition avec Walt Disney, les dessinateurs, les réalisateurs se sont dit « il est sur le domaine de l'enfance, nous on va aller ailleurs, nous sommes des adultes, nous vivons à Hollywood, nous côtoyons les metteurs en scène d'Hollywood, nous écoutons la radio, etc. Et donc on va faire des films pour les adultes. » Il se trouve que et c'est pour ça que la pérennité va jusqu'à aujourd'hui, parce que les valeurs qui sont portées par ces films, l'humour, la dérision, le sens de l'absurde, sont des valeurs qui sont toujours valables aujourd'hui et qu'on apprécie tous.
Et moi, des fois, ils me font penser à nos hommes politiques. Des fois, je trouve que quand on voit le professeur Raoul, ça pourrait être le diable de Tasmanie, et Elmer, ça pourrait être Jean Castex.
Oui. Ah, Jean Castex, c'est un personnage qui... Alors, Jean Castex peut incarner plusieurs rôles. Comme nous sommes en direct, je ne vais pas me risquer à aller chercher quel personnage il pourrait être idéalement. Mais oui, mais évidemment. Mais vous savez, Valérie...
Parce qu'ils ont tous... Ils ont tous...
Ils sont pas nés par hasard. C'est-à-dire que les metteurs en scène qui les ont réalisés, dessinés, ils écoutaient la radio, ils lisaient les journaux. Il s'inspirait de l'actualité. Il y a un nombre incalculable de dessins animés où on voit des caricatures de stars de l'époque. On croise dans les cartoons Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Lorraine Bacall, donc des acteurs, des actrices vedettes du moment. C'était d'une certaine façon, un peu les guignols de l'info du moment.
Titi et Gros Minet ont failli ne pas voir le jour. J'ai appris ça dans votre livre. Ils avaient des doutes sur ces deux personnages, sur ce chat
Alors, celui qui avait des doutes, c'était le successeur. En fait, ce sont des productions Warner, toujours. Ouais. Le producteur des cartoons Warner, au départ, s'appelle Leon Schlesinger. Il prend sa retraite et Warner désigne un administratif pour le remplacer qui s'appelle Eddie Seltzer. Et comme souvent dans les médias, quand les administratifs se piquent de programme, ça peut donner des catastrophes. Et donc, le fameux Eddie Seltzer se dit, tiens, non, un canari et un chat, ça marchera jamais. Et il va s'opposer à Fritz Frilling, le réalisateur de Titi et Gros Minet. Et Fritz Frilling, non seulement lui tient tête, mais surtout obtient une victoire éclatante en recevant le premier Oscar décerné à un dessin animé Warner avec Sylvestre et Titi.
Ouais, il y a eu des Oscars. Vous avez raconté aussi la rencontre entre Michael Jackson et Joe Barbera, parce que là aussi, ça explique peut-être la pérennité de ces dessins animés. C'est que c'était des amis pour beaucoup d'enfants.
Ça, c'est une très jolie anecdote que j'ai trouvée en lisant les mémoires de Joe Barbera, qui est donc avec William Hanna, le père de Tom, oui, et Jerry, mais également de plein d'autres personnages de télévision qui sont apparus par la suite, comme les Pierres à Feu, par exemple. Et Joe Barbera avait un projet de film long métrage. Il cherchait un musicien pour faire la musique. Il rencontre Michael Jackson. Finalement, ils font pas affaire, mais Michael Jackson est beaucoup plus impressionné de rencontrer Joe Barbera que l'inverse. Et donc, ouais, Michael Jackson demande un autographe à Joe Barbera, qui lui-même lui demande poliment la même chose. Et Michael Jackson signe l'autographe en disant « Vous avez créé les personnages qui étaient mes seuls amis, je n'avais qu'eux. »
Ouais, c'est incroyable.
Stéphane nous dit. Vas-y,
Un auditeur nous dit les dessins animés actuels sont moches graphiquement, les Warner sont superbes, ça ne vieillit pas, les jeunes aiment encore Picsou et Mickey. Kay nous dit Pépé le putois, ça me manque. Voilà, chacun a son Toons préféré, Gilles.
Et juste avant de nous quitter, moi j'avais une question que, enfant, je me posais la question. Vous savez, dans les Toons, il y a écrit Eat at Joe, manger chez Joe. Joe, il existe vraiment, le restaurateur, et pourquoi c'était Eat at Joe?
Bien sûr, il est installé tout près de Sud Radio.
Oui, à côté, juste à côté. That's all, folks. On a fini. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses au pays des Toons. Franchement, si vous aimez les Toons, si vous aimez le cinéma, si Hollywood vous intéresse, c'est vraiment passionnant. Moi, je l'ai lu avec un plaisir fou parce que j'ai découvert des personnages comme évidemment, je vais pas retrouver le nom. Chuck, comment il s'appelle?
Chuck Jones,
qui est un personnage incontournable dans ce que sont les cartoons, que vous avez d'ailleurs eu la chance de rencontrer.
C'est le père de Bip Bip et le Coyote, et c'est aussi le père du fameux Pépé le putois que vous évoquiez à l'instant.
Moi j'aimais Bip Bip.
Merci à tous les deux.
Et ben merci à vous. On vous a posé 100 fois la question, votre Toons préféré?
Ça dépend des moments, mais en ce moment, ouais, je suis très droopy parce que c'est son côté flex.
Et ben moi je suis Bip Bip, Gilles.
Moi, j'aime bien Daffy Duck, en fait, ouais, parce que c'est un loser magnifique.
Ah bah alors, vous avez toute la généalogie de Donald Duck dans le livre de Philippe Dana. Au pays des Toons, c'est paru
Donald,
chez Pierrot.
Donald, c'est Mickey, Valérie.
Ah oui, Donald vous, Duck, c'est Daffy, Mickey, oui, c'est Daffy, vous avez raison. Je me confonds de canard, alors je refonds
attention,
canard.
Hein.
Stéphane dit refaites une émission plus longue s'il vous plaît. Lisez le livre de Philippe Dana, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous contenter. C'est plein d'anecdotes, c'est un plaisir de lecture. Merci Philippe Dana d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Nous on se retrouve dans un tout petit instant avec Régis Barnier, un réalisateur de cinéma positif, définitivement positif. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec nous sur Sud Radio, l'immense cinéaste Régis Varnier est avec nous. Bonjour Régis Varnier.
Bonjour Valérie, bonjour monsieur à côté.
Monsieur à côté s'appelle Gilles Ganzman. Voilà, on est ravis de vous avoir ce matin. Est-ce qu'on a besoin de rappeler votre palmarès Indochine, vous avez eu le César de la première œuvre pour La femme de ma vie, l'Oscar du meilleur film étranger pour Indochine, plusieurs nominations au César du meilleur réalisateur. Enfin bref, on va pas dérouler ici votre palmarès de récompenses. Vous êtes là pour nous parler ce matin et ça nous fait du bien. On va parler de la semaine du cinéma positif qui va se tenir la semaine prochaine, du 10, à partir de cette semaine d'ailleurs d'aujourd'hui, du 10 au 16 décembre. Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette semaine du cinéma positif qui avait été créée, organisée au départ à Cannes.
C'est la cinquième année. Évidemment, c'est inclus dans le programme cannois. Bon, cette année, comme vous savez, il n'y a pas eu de festival pour les raisons que tout le monde connaît, mais on n'a pas voulu laisser tomber cette manifestation. La première chose que je vais vous dire, c'est que le plus important pour moi dans le cinéma positif, c'est d'abord cinéma. Voilà. Il ne s'agit pas de faire une œuvre militante. Qui oublierait que le cinéma, c'est quand même un regard, c'est une manière de raconter, c'est une manière de travailler, c'est une manière d'apporter des émotions. Voilà. Donc, dans la sélection qu'on avait cette année, il n'y avait que vraiment des films très, très intéressants. Voilà. Oui. Alors
le principe, mais déjà expliquer ce que c'est que le principe. Tout le monde n'avait peut-être pas entendu de parler de cette semaine du cinéma positif. Le principe, c'est quoi? C'est de proposer des films qui ont une vision positive du monde, qui sont des films qui interrogent le monde et qui apportent des solutions, c'est ça?
Oui, alors c'est vrai que le mot positif, il est un peu bizarre en ce moment, il a une drôle de connotation quand même. Ouais. Quand on dit positif, on pense plutôt à autre chose que du cinéma. Ouais. C'est effectivement de proposer un regard sur le monde, sur son fonctionnement, sur ses injustices, sur comment l'améliorer. C'est peut-être transformer le spectateur qui, bien que dans une salle de cinéma, on est entouré de plein de monde, mais transformer l'individu spectateur, de lui rappeler qu'il est aussi citoyen. Et que la situation du monde, alors que ce soit évidemment aujourd'hui, tous les combats sont là. Je veux dire, la parité, la diversité, l'écologie, l'économie. C'est vrai qu'il y a une accélération depuis une dizaine d'années sur tous ces combats sociaux et sociétaux, et qu'on lui propose des films qui, tout en étant des véritables œuvres de cinéma qui vont le toucher, que ça ouvre aussi sa réflexion. Et si au bout de la réflexion, il y a une envie ou un désir d'engagement, tant mieux. Voilà.
Mais est-ce que c'est le rôle du cinéma aussi? C'est pas qu'un divertissement aussi, cinéma?
Je pense aussi, regardez là, parce qu'il y a, et je pense que il y a plein de films donc en fait qu'on pourrait mettre dans cette catégorie, mais on n'y pense pas. Je vais vous donner l'exemple, c'est pas un exemple tout neuf, mais l'exemple type pour moi du cinéma positif, c'était Irine Brockovich.
Oui, oui.
Si vous vous souvenez le combat de cette femme.
Le film avec Julia Roberts. Voilà. Ouais. D'accord.
Voilà. Mais je pourrais mettre aussi le film espagnol El Reino qui parle des manœuvres, sinon des mauvaises manœuvres politiques. Je veux dire, c'est donner un regard sur le... C'est un enrichissement, je pense, déjà, oui, dans le contenu, dans ce que ça raconte, et c'est une ouverture d'esprit. Oui. C'est aussi un cinéma de distraction. Voilà.
Oui, oui, oui. Irine Brockovich. C'est... Mais alors justement, est-ce que ce côté cinéma positif fait pas un peu peur? C'est-à-dire que le côté bien pensant, politiquement correct, le côté positif a un côté un peu ringard dans le mot. Vous le disiez aujourd'hui, ça évoque autre chose, ça évoque peut-être les tests, mais le côté positif, c'est pas franchement à la mode, quoi.
C'est vrai, c'est pour ça que j'insiste sur le mot cinéma. Le mot positif tout seul, il ne me dirait rien, mais quand je dis cinéma et je le mets avant positif, je pense que c'est comme d'ailleurs certaines lectures, certains livres, et qui finalement sont avant tout des plaisirs de lecture et de là on a des plaisirs de spectateur, mais en même temps on a une réflexion et une ouverture d'esprit. Ça, je vous dis, c'est pas du militantisme, c'est pas des choses qu'on essaie de vous asséder.
Alors qu'est-ce qu'on va voir comme film? Alors les salles de cinéma sont fermées, donc comment est-ce qu'on va pouvoir voir sur MyCanal, c'est ça, sur Canal Plus Cinéma?
Voilà, il y a des films américains, il y a des documentaires, il y a un film, vous savez, qui s'appelle Scandale, qui racontait le combat de deux femmes contre le patron et son harcèlement. Il y a des films sur l'état de la vie des paysans et des agriculteurs aujourd'hui. Il y a un film marocain sur la place des femmes dans la société. Il y a le film de Darthus Bertrand qui s'appelle Woman, vous savez, qui est fait d'une suite d'interviews à travers le monde. Il y a beaucoup de choses et c'est mais c'est toujours du cinéma, c'est-à-dire ça passe par des personnages, un récit, une émotion. Mais je pense qu'on aime tous aller au cinéma et puis sortir avec le sentiment que on nous a ouvert un peu la tête ou qu'on nous a montré quelque chose qu'on ignorait et puis qu'on se réveille avec le lendemain et qu'on a envie de faire des choses. Voilà. Mais je pense
c'est pas un peu frustrant que justement vous dites cinéma, ça a un sens, c'est une salle, c'est un grand écran. Aujourd'hui les cinémas sont fermés, on attend de savoir s'ils pourront rouvrir, donc ces films seront diffusés pour l'instant à la télévision. Est-ce que vous, en tant que réalisateur de cinéma, on est obligé de s'adapter évidemment avec le Covid, mais une certaine frustration?
Oui, alors d'abord on aurait pu l'appeler film positif, hein, voilà. Mais c'est vrai que si vous revenez sur le cinéma, on est tous extrêmement frustrés et d'ailleurs je pense que ça fait partie de cette expérience et de cette idée de cinéma positif, c'est d'être ensemble. C'est vrai que le cinéma, c'est être ensemble. Il y a un vrai plaisir d'être à la fois anonyme dans une salle de cinéma entouré de gens qu'on ne connaît pas et d'avoir une émotion collective. Et c'est vrai que c'est encore plus fort sur des films de qu'on propose dans cette manifestation. C'est encore plus fort si on partage avec d'autres spectateurs. C'est vrai. On le sent quand une salle vibre.
Ouais. Mais pour rebondir sur
l'escalier à la fin, que les gens s'attardent.
Oui, bien sûr.
Mais pour rebondir sur la question de Valérie, est-ce que, comme Valérie en parlait, vous comprenez la fermeture des salles par le gouvernement qui va être peut-être prolongée, ou pour vous, il n'y a pas de souci à aller au cinéma, ou est-ce que vous comprenez la décision d'Emmanuel Macron?
Écoutez, je ne sais pas s'il l'a prise tout seul déjà, la décision, mais... Moi, j'étais le jour de la réouverture, hein, c'était il y a quelques mois, évidemment, je me suis précipité au cinéma de mon petit coin en Bretagne, là, pour être solidaire. J'ai l'impression que dans une salle de cinéma, quand même, d'abord, on avait tous respecté la distanciation fauteuil, on était tous masqués, et dans une salle de cinéma, on ne bouge pas. Voilà, je pense que c'est pas les lieux peut-être les plus compliqués. En plus, c'est ces lieux qui font peur parce qu'ils sont clos, on prend tous des précautions. Je pense que c'est dans des lieux où on ne prend pas de précautions qu'on peut attraper le virus. Je peux pas vous répondre fermement parce que
personne n'a la réponse.
C'est la première fois qu'on est frappé par une pandémie de cette sorte. Je pense que les Asiatiques qui sont malheureusement plus accoutumés auraient une meilleure réponse. Parce que moi, en plus, j'habite dans le centre de Paris. Ça fait des années que je vois les Asiatiques se balader dans Paris avec des masques. Voilà, pour nous, c'est une découverte. Donc, je pense que les pays asiatiques ont l'expérience des pandémies et je ne sais pas très bien comment ils font avec leur cinéma ou leur restaurant, mais je pense que c'est là. Si vous voulez, c'est tellement inconnu, c'est tellement... On est perdu, quoi. Mais je pense que nos gouvernants, ils tâtonnent, ils cherchent, ils ne savent pas. on expérimente, on essaye quelque chose, on essaye autre chose.
Donc difficile de juger. Ouais. Alors on a des auditeurs qui nous disent c'est une formidable initiative. Dommage qu'on ne puisse pas s'abonner à la carte à Canal parce que j'aurais bien aimé suivre cette semaine. Effectivement, ce ne seront que les abonnés Canal qui pourront en profiter.
Alors, je crois qu'il y aura certains films en clair sur MyCanal, Valérie, par rapport à nous.
Oui, bien sûr.
Si vous allez sur l'application MyCanal, téléchargez l'application sur MyCanal, il y aura des films qui seront en clair à l'occasion de ce festival. C'est le conseil que je peux donner à nos auditeurs.
D'accord, bah très bien. Donc, semaine du cinéma positif, 5e édition, placée sous le signe de l'altruisme. Merci d'avoir été avec nous, Régis Varnier. Ah
oui,
merci
et puis pour faire un film, Régis. Hein.
Bah oui.
Bah oui, mais quand je vais oublier un truc. Je suis en train d'écrire un scénario, tout va bien, et un roman. Je dis bien à Valérie que j'écris un deuxième roman.
Oui, bah j'avais beaucoup aimé le premier, donc voilà, j'attends le second.
Et je ne vous cache pas que dans les conditions de tournage actuellement, je ne me précipite pas, parce que c'est compliqué de tourner. Alors, c'est-à-dire, les gens tournent en ce moment. Beaucoup de films se font. Hein.
Ouais.
Mais bon, Stéphane, avec des masques.
Stéphane nous dit mon film préféré, Pars vite et reviens, très actuel comme film, en plein dans le mille de l'actu. Merci pour ce film.
Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, la peste.
Oui, absolument.
La peste sur Paris, voilà.
Il faudrait qu'on le rediffuse. Vous voyez, on a des auditeurs très cinéphiles. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, Régis Varnier. Toujours un plaisir de vous voir, même par écran interposé. Voilà. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.